Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Donc, nous poursuivons la lecture du séminaire 5 aujourd'hui avec les séances 9 à 11 du séminaire. Et nous accueillons d'une part Jean-François Lebrun, qui va nous parler dans un premier temps de la métaphore paternelle, et d'autre part Bogdan Kuznirek, qui va nous parler des trois temps de l'Œdipe. Alors Jean-François, je vous rappelle pour ceux qui le connaissent déjà, et puis je le présente pour ceux qui viennent pour la première fois. Il est intervenant au Courtil et il est également psychanalyste à Mons. Donc voilà, je vais lui passer la parole pour nous parler de la métaphore paternelle.
Voilà. Alors, c'est ici, dans cette deuxième partie du séminaire 5 sur les formations de l'inconscient, que s'élabore ce qu'on pourrait appeler le Lacan classique concernant l'Œdipe, que Freud est allé chercher dans la mythologie grecque. C'est une découverte capitale de la psychanalyse que l'accès de l'enfant à l'objet primordial qu'est sa mère se voit barré par l'intervention du père qui dès lors s'avère gêneur et même interdicteur. Et c'est là, sur ce point-là, que le père est lié à l'interdit de l'inceste. La métaphore paternelle, c'est la transcription lacanienne de l'Œdipe freudien. Très tôt, d'ailleurs, dans son enseignement, c'est-à-dire dans les complexes familiaux, texte qui date de 1938, Lacan reprend la question de l'Œdipe, mais en y apportant une précision que Freud n'avait pas formulée comme telle. C'est qu'au moment où il découvre la fonction du père, elle est déjà en plein déclin. Lacan parle ainsi du déclin social de l'imago paternel. Ça, c'est en 1938. Ici, avec le séminaire 5, ce qu'on peut constater, c'est la poursuite du mouvement amorcé déjà auparavant, à savoir que Lacan procède à quelque chose là. Tous les termes imaginaires forgés auparavant, ici en l'occurrence, ce terme d'imago que je viens de citer, Lacan les fait passer au symbolique. Il s'agit de faire donc passer des termes imaginaires comme père, mère, etc., de les faire passer au symbolique, de les transcrire en termes de signifiant. C'est le primat du symbolique affirmé par Lacan. Jacques Alain Miller a mis en lumière ce mouvement chez Lacan. Il a périodisé l'enseignement de Lacan. Juste avant le début de ce séminaire 5, Lacan a donné un article qui s'intitule « L'instance de la lettre » que vous trouvez dans les écrits, dans lequel il théorise ce qu'il en est de la métaphore. Et juste avant précisément les séances qui nous occupent aujourd'hui, Lacan a publié un texte qui s'intitule « D'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose », et c'est dans ce texte-là qu'il formalise précisément la métaphore paternelle. Donc, les séances que l'on aborde aujourd'hui ont pour arrière-fond déjà l'écriture de la métaphore. Voilà un saut qui peut paraître étrange. On passe du mot d'esprit dans la première partie à la métaphore paternelle dans la seconde. Qu'est-ce que les structures freudiennes de l'esprit, telles que Lacan les a investiguées pendant un trimestre, que viennent-elles faire? Qu'est-ce qu'elles viennent mettre en évidence? La nécessité de l'instance de l'autre majuscule, le grand autre, afin que le mot d'esprit soit reconnu comme tel. l'analyse freudienne du trait d'esprit, vous vous en souvenez, se résout dans une analyse du langage en termes de signifiant, mettant en avant le gain de plaisir produit, le plaisirogène, comme dit Lacan, mais qui doit, pour s'effectuer, en passer par la reconnaissance de l'autre, il faut l'autre symbolique. Le sujet a une intention de signification, et pour ce faire, il va chercher dans l'autre, comme trésor du signifiant, comme lieu du code, les signifiants nécessaires pour exprimer son désir. Mais par le passage dans le signifiant, le désir subit une réfraction, c'est-à-dire qu'il arrive comme autre que ce qu'il était au départ. C'est ce que Lacan appelle la dialectique de la cocufication du désir. Vous voudriez dire quelque chose, et voilà que c'est autre chose qui sort, et c'est le mot d'esprit. Le trait d'esprit se développe donc au-delà du signifiant, dans la dimension de la métaphore. C'est dans ce trébuchement que l'autre reconnaît cette dimension au-delà où doit se signifier ce dont il est question. Ce qui, dans les traits d'esprit, supplée au point de nous donner une sorte de bonheur à l'échec de la communication du désir par la voie du signifiant, se réalise de la façon suivante. L'autre entérine un message comme achoppé, échoué, et dans cet achoppement même reconnaît la dimension au-delà dans laquelle se situe le vrai désir, c'est-à-dire ce qui, en raison du signifiant, n'arrive pas à être signifié. L'autre n'est pas seulement le lieu du code, il intervient en entérinant un message dans le code et le compliquant. Il est au niveau de celui qui constitue la loi comme telle, puisqu'il est capable d'ajouter ce trait d'esprit, ce message, comme supplémentaire, c'est-à-dire comme désignant l'au-delà du message. C'est ce que Lacan appelle le nom du père. C'est ici, dans ce séminaire, que Lacan conceptualise le nom du père, ce qu'il avait déjà commencé dans les deux séminaires des années précédentes. Une machine pourrait très bien authentifier ce signifiant comme appartement au code, c'est-à-dire au trésor du signifiant. Vous pouvez imaginer une machine qui renfermerait le dictionnaire du CNRS, par exemple, le trésor de la langue française. C'est pas pour ça que cette machine va reconnaître un mot d'esprit qui, justement, se décale par rapport au trésor du signifiant. Le nom du père, c'est ce que Lacan définit en disant « c'est l'autre dans l'autre ». C'est un terme qui, dans le signifiant, c'est-à-dire dans l'autre, représente l'autre. Donc dans le lieu de l'autre, il y a un terme qui représente l'autre. Donc le nom du père, en plus de simplement authentifier un signifiant comme appartenant au code, peut en plus authentifier un trait d'esprit ou un néologisme comme appartenant également au code. Le nom du père est donc capable d'entériner un message, même si ce message est fait d'un néologisme. Alors, le nom du père, c'est le père symbolique. Prenons le mythe freudien de l'Édipe. On voit qu'il y a le meurtre. Freud postule le meurtre du père. Pourquoi ? Parce que, et je lis Lacan, le père, en tant qu'il promulgue la loi, est le père mort, c'est-à-dire le symbole du père. Le nom du père, c'est ce qui va permettre à Lacan d'écrire la métaphore paternelle, qui est la façon proprement lacanienne de reprendre l'Édipe freudien. Ce sont ses patients qui ont révélé à Freud le complexe d'Édipe, au centre des désirs infantiles refoulés pour la mère, désirs primordiaux, et qui sont toujours là, au centre se trouve la fonction du père. Alors, après la découverte par Freud de l'Édipe, dans les années suivantes, on a essayé de confronter cet Œdipe avec une série de pathologies pour voir comment ça pouvait s'articuler. En effet, l'Œdipe comme principe universel se rencontre chez le névrosé, mais aussi chez le normal. Pourquoi ? Parce qu'il a une fonction de normalisation, au sens de soumettre à une norme, la norme de l'autre. Le sujet est soumis à la norme de l'autre. Et ici, Lacan regroupe très méthodiquement, en trois catégories, toutes ces questions qu'on s'est posées à travers toutes ces années. On pouvait se dire que c'est un accident de l'Œdipe qui provoque la névrose. Mais aussi, on pouvait se demander, y a-t-il des névroses sans Œdipe ? Voilà la première catégorie que Lacan réunit. On invoquait alors des situations où un enfant névrosé se trouve pourtant dans un rapport exclusif à la mère, ce qui posait la question d'un surmoi maternel, primitif, plus ravageant encore, antérieur au surmoi paternel. Et Lacan évoque à ce sujet un article sur cette question qui s'intitule « Névrose sans Œdipe », dont l'auteur, un psychanalyste helvétique, Charles Audier, c'est un article datant de 1933. Donc en 58, ça donne une idée quand même de la façon dont Lacan travaillait, en 58, Lacan va chercher un article qui date de 25 ans avant et qui avait déjà posé le problème. Deuxième groupe de questions. On s'est demandé si une série de pathologies ne pouvait pas se rapporter à des temps pré-édipiens, donc avant l'Œdipe, avant la normalisation effectuée par le complexe d'Œdipe. Ainsi, par exemple, la fixation à une pulsion scopique perverse ne serait-elle pas fixation à une zone érogène pré-édipienne ? Ou encore la psychose ne serait-elle pas, elle aussi, fixation à un temps pré-édipien ? Lacan ramasse ces questions en les rapportant à la prévalence de l'imaginaire. Dans les deux cas, il s'agit de perturbations que la recherche analytique de cette époque a liées à la prévalence de l'imaginaire dans les temps pré-édipiens. Et il invoque Mélanie Klein comme représentante d'un courant qui s'est spécialisé dans l'exploration du pré-édipien. Qu'est-ce qu'il en dit ? Donc, il commente certains articles de Mélanie Klein concernant l'Œdipe. Je suis ici à la page 164. À l'entendre, le rôle prédominant dans l'évolution des premières relations objectales infantiles serait joué par l'intérieur du corps de la mère qui centrerait toute l'attention de l'enfant. Or, vous constatez avec surprise que se fondant sur des dessins, sur des dires, sur toute une reconstruction de la psychologie de l'enfant à cette étape, Madame Mélanie Klein nous atteste que parmi les mauvais objets présents dans le corps de la mère, dont tous les rivaux, les corps des frères, des sœurs, passés, présents et à venir, il y a très précisément le père représenté sous la forme de son pénis. Ça, c'est la façon de travailler de Mélanie Klein. Cette contradiction a tout son prix, poursuit Lacan. Alors que l'intention de Mme Mélanie Klein était d'aller explorer les états pré-édipiens, plus elle remonte sur le plan imaginaire et plus elle constate la précocité, bien difficile à expliquer si nous nous en tenons à une notion purement historique de l'Œdipe, donc la précocité de l'apparition du tiers terme paternel, et cela dès les premières phases imaginaires de l'enfant. Donc elle a beau chercher dans l'imaginaire, dans ses investigations, du côté de la mère, qu'est-ce qu'elle trouve toujours de façon plus archaïque ? Le père. Le troisième groupe de questions qu'on s'est posé, c'est ceci. En quoi le complexe exerce-t-il une fonction normative quant à l'assomption de son sexe? Qu'en est-il donc de la fonction de l'Œdipe dans ce domaine? Ce qui fait que l'homme assume le type viril et que la femme assure un certain type féminin, se reconnaît comme femme, s'identifie à ses fonctions de femme, la virilité et la féminisation sont les deux termes qui traduisent ce qui est essentiellement la fonction de l'Œdipe. Nous nous trouvons là au niveau où l'Œdipe est directement lié à la fonction de l'idéal du moi. Il n'y a pas d'autre sens. Donc, voilà les trois séries de questions reclassées par Lacan. Le surmoi, toujours paternel. La perturbation par l'imaginaire du champ de la réalité. L'idéal du moi. Concernant cette troisième question, donc du rapport de l'idéal du moi quant à l'assomption de son sexe, méfions-nous, dit Lacan, de toute perspective d'un sociologisme environnementaliste qui viendrait examiner à la loupe ce qu'il en est du rôle du père dans l'espoir de repérer en quoi il a pu être carent. Le père était-il trop là ou pas là? Trop présent, trop absent, trop sévère, trop gentil? Quel est le degré d'entente, de mésentente des parents? Toutes ces questions-là mènent à l'impasse. On s'est aperçu, en fait, que l'Œdipe pouvait très bien fonctionner même si le père est absent. C'est-à-dire que le père est là même s'il n'est pas là. Concernant la question de la carence du père, le père est toujours carent, quelque part, mais la question n'est pas là. Lacan fait remarquer que la carence du père ne concerne pas directement l'enfant. Ce n'est pas sa carence dans la famille qui compte, famille comme, unité observable, etc. Ce qui compte, c'est sa carence dans le complexe. Posant le problème au niveau du complexe, nous ne sommes donc plus dans des questions d'environnement. Donc, interrogeons le complexe. Et qu'est-ce que le père interdit? Il y a d'abord la menace de castration. Si tu te tripotes, on te la coupera, etc. Mais cette menace peut aussi bien être proférée par la mère ou par toute autre personne qui s'occupe de l'enfant. Le père, là, n'est pas essentiel. Il y a ensuite, deuxièmement, que le père interdit la mère. Le père frustre l'enfant de la mère. Il intervient ici, comme dit Lacan, en tant qu'ayant droit. C'est lui qui a droit à la mère. Et c'est ici une interdiction à double sens. Le père interdit la mère à l'enfant et il interdit l'enfant à la mère. Troisième niveau, c'est le père qui se fait préférer à la mère en tant que porteur du phallus. Ce n'est pas la mère qui a le phallus, c'est le père. Pour autant, le père devient idéal du moi. C'est le niveau de la privation. Au moment de l'issue normativante de l'Œdipe, écrit Lacan, l'enfant reconnaît n'avoir pas vraiment ce qu'il a, cas du garçon. Le garçon reconnaît n'avoir pas vraiment ce qu'il a pourtant, et n'avoir pas ce qu'il n'a pas, cas de la fille. Pour la fille, voilà un résultat admissible, encore que subsiste la question du pénis Nide. Pour le garçon, il devrait alors se trouver toujours châtré. Il y a donc encore un tour de plus à faire dans l'explication, dit Lacan. Qu'est-ce que le père, demande Lacan. Je ne dis pas dans la famille, car dans la famille, il est tout ce qu'il veut. Il est une ombre, il est un banquier, il est tout ce qu'il doit être, il l'est ou il ne l'est pas. Cela a toute son importance à l'occasion, mais cela peut aussi bien n'en avoir aucune. Toute la question est de savoir ce qu'il est dans le complexe. Et dans le complexe, le père, c'est le père symbolique. J'y reviens. Qu'est-ce qu'il est dans le symbolique? Eh bien, il est une métaphore, c'est-à-dire un signifiant venant à la place d'un autre signifiant. Dans l'univers du langage, qui est celui de l'être humain en tant que parlant, la fonction symbolique du père comme signifiant est de se substituer à un autre signifiant. Reprenons rapidement la formule de la métaphore telle que Lacan s'y réfère. Vous la trouvez page 176. Donc c'est un mécanisme de substitution. Vous avez... Vous avez le signifiant intermédiaire qui tombe, comme ça. Et alors, le sens, par l'opération de simplification qui en résulte, se retrouve ici. Ici, on l'écrit « exprime » parce que ça rappelle que c'est le signifié du premier signifiant, du signifiant intermédiaire. Une métaphore... Donc, c'est un signifiant qui se substitue à un autre signifiant, et il en résulte quoi? Une création de sens. La création de sens, c'est que ce signifiant-ci s'est attiré le signifié du premier signifiant. Ici, il s'écrit X. Pourquoi? Parce qu'il y a une question qui se pose là. Quel est le signifié? Il y a une énigme. Ainsi, c'est en tant que le père se substitue à la mère comme signifiant, que se produit le résultat de la métaphore. On va réécrire avec les signifiants de la mère et du père. Voilà. Grand M représente non pas la mère, mais le signifiant du désir de la mère, c'est-à-dire le signifiant du désir de la mère en tant que femme. Quel est le signifié de ce désir? La mère, c'est le premier signifiant introduit dans la toute première symbolisation, celui de la mère symbolique. Et donc la question se pose. Qu'est-ce que c'est? Je vous lis ici. La mère symbolique, c'est quoi? C'est la mère qui va, qui vient. C'est parce que je suis un petit être déjà pris dans le symbolique et que j'ai appris à symboliser que l'on peut dire qu'elle va, qu'elle vient. La question est, quel est le signifié? Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Je voudrais bien que ce soit moi qu'elle veuille, mais il est bien clair qu'il n'y a pas que moi qu'elle veut, il y a autre chose qui la travaille. Ce qui la travaille, c'est le X, le signifié. Ça, c'est l'énigme que le sujet se pose. Et la solution de cette énigme apportée par le père, c'est ceci. Le père va venir se substituer à la mer en tant que signifiant. Et la solution de l'énigme va être le phallus, c'est-à-dire la signification phallique. Il y a quelque chose que Jacques-Alain Miller fait remarquer, c'est que quand vous envisagez cette barre-ci, c'est une barre qui sépare le signifiant du signifié. Le signifiant du désir de la mère, quel est le signifié de ce désir? Par contre, cette barre-là, c'est une barre de substitution, au sens où le signifiant qui se trouve au-dessus vient se substituer à l'autre. Écrivons la métaphore paternelle telle que Lacan l'a formulée dans son écrit d'une question préliminaire. Il écrit ça comme ceci. Nom du père sur désir de la mère. Signifie au sujet donne voilà, ça c'est l'écriture telle que vous la trouvez dans les écrits. Il faut voir que ceci, lorsque la métaphore paternelle ne fonctionne pas, qu'est-ce qui vient à la place de la bête? Le sujet dans la psychose, le sujet est le signifié du désir de l'autre. Et au fond, La métaphore paternelle, lorsqu'elle opère, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle vient justement barrer ceci, ce qui soulage le sujet d'avoir comme destin d'être le signifié de l'autre. Alors, quand on simplifie, on obtient, par simplification, il reste le signifiant au-dessus, et Lacan a écrit ici grand A sur fin. Il n'a pas écrit un 1, comme vous voyez dans la formule de la métaphore, il a écrit un grand 1. Pourquoi? Parce que ce qui reste ici, à l'état de refoulé, c'est quelque chose qui a à voir avec le désir de la mère, qui a précisément été interdit et refoulé. Et vous pouvez lire ça dans la question préliminaire, justement. Lorsque Lacan dit ceci à la page 557, la présence du signifiant dans l'autre, donc l'autre là, le grand A, est en effet une présence fermée au sujet pour l'ordinaire, puisque ordinairement, c'est à l'état de refoulé qu'elle y persiste, que de là elle insiste pour se représenter dans leur signifié, par son automatisme de répétition. Donc, il y a quelque chose qui se trouve refoulé là et qui est le résultat de la métaphore paternelle. Alors, le résultat de toute cette opération, c'est que le sujet obtient la signification phallique. C'est comme ça que Lacan appelle la signification phallique. Ici, quel était le signifié au sujet? Eh bien, c'est ça. Thank you. font, par l'effet de la métaphore, l'enfant se trouve soulagé du caprice de l'autre maternelle, qui est barré. Vous avez, au fond, vous avez quelque chose comme une équation. Au fond, tout ceci, c'est l'opération du complexe d'Œdipe. Et ici, nous avons la castration, à savoir le phallus, il est du côté du nom du père. Il n'est plus comme question du côté de la mère. Ce n'est plus au sujet qu'il incombe de devoir l'incarner. Il est dans l'autre. Ça, c'est la métaphore paternelle. Alors, vous avez une petite notation. Ceci. Ce qui est essentiel, c'est que le sujet, par quelque côté que ce soit, ait acquis la dimension du nom du Père. Donc, le nom du Père, c'est une dimension. Autrement dit, Lacan n'a pas gravé dans le marbre la fonction du Père. Le nom du Père est un instrument et il n'est pas voué à se trouver incarné exclusivement dans la personne du Père. Déjà, en 58, Lacan parle de dimension. C'est un signifiant, mais un autre signifiant pourrait tout aussi bien exercer cette fonction. Disons un mot justement de ce cas de névrose sans Œdipe amené par Charles Odier que Lacan cite. Donc ce psychanalyste qualifie de névrose atypique ce sujet adulte qui était venu le consulter pour une série de symptômes obsessionnels. Il se trouve que ce patient a été retiré à ses parents dans la prime enfance pour ne le retrouver que vers l'âge de 10 ans. Et donc pendant toute son enfance, il était en garde d'une bonne. À la fois une bonne, à la fois aimante et sévère, comme le reprend le cas. Et Charles Odier, qui est donc un psychanalyste de la première époque, il voudrait absolument qu'un complexe d'Œdipe, ça se déroule avec un père et une mère dans la prime enfance. Et donc, comme il ne trouve pas ça, comme il ne trouve pas cette constellation-là chez le sujet qu'il analyse, il en conclut qu'il n'y a pas eu d'Œdipe, puisque le sujet est séparé de ses parents. Et donc, l'auteur se retrouve devant un cas que lui considère atypique de névrose sans Œdipe. Et en fait, on pourrait dire plutôt en réalité que le sujet a été d'autant plus livré à l'autre maternel qu'il était en tête-à-tête avec cette bonne d'enfant, sans instance tierce, justement. À ceci près que ce n'était pas sa mère biologique, mais c'était la bonne. Comme c'est souvent le cas quand un enfant est pris en charge d'autres personnes, c'est souvent un risque de se trouver là face à un autre sans limite. Donc le père est un signifiant. Et on voit bien avec les nouvelles formes de la famille, ce signifiant est appelé à s'incarner autrement. Jacques-Alain Miller a d'ailleurs proposé un autre mathème qui permet de généraliser ceci. Hein, si on reprend, voilà, il écrit ceci. Voilà. Ça, ce serait une généralisation de la fonction paternelle, à savoir l'autre du langage interdit la jouissance. La jouissance est interdite à qui parle. Ça, c'est un mathème qui a l'avantage, dans son écriture même, de se montrer détaché du père. Ce qui montre bien que quand on parle de père symbolique ou de père ou de nom du père, il ne faut pas enchaîner ceci à la personne du père. Le père édipien, dans ce contexte, devient, dans le dernier enseignement de Lacan, devient un nom du père, entre autres, une façon de savoir y faire avec la jouissance interdite. Et donc, toute la question, c'est, comme dit Lacan, se servir du nom du père à condition de s'en passer. Donc, il ne faut pas substantifier l'Édipe, ni le père, ni la mère. J'évoque rapidement, pour terminer, le cas d'un psychanalyste qui se revendique de Lacan pour justement opérer cette substantification. Donc, vous savez qu'il y a eu, les dernières semaines en France, la question du mariage pour tous. Ça a eu en tout cas l'effet très intéressant dans l'orientation lacanienne de susciter un certain nombre d'écrits, de textes, de travaux. Et ce Jean-Pierre Winter, qui n'est pas de notre orientation, mais qui se revendique de l'enseignement de Lacan, prend des positions qui nous paraissent absolument étranges. Et donc, je me suis basé là rapidement sur un article que vous pouvez trouver en ligne qui s'intitule « Homoparentalité et refus du réel » que vous trouvez dans la très jésuitique revue « Études » numéro 5 de l'année 2010. Et donc, ce psychanalyste s'oppose déjà au terme de parentalité. Pour lui, il s'insurge contre ce terme en disant il n'y a déjà plus la notion d'engendrement véhiculée par cette notion de parentalité. Autrement dit, il revendique l'idée d'une parenté naturelle. À la clé des choses, pour lui, il faut qu'il y ait une parenté naturelle, un engendrement naturel. Sinon, on n'est pas vraiment dans la parenté. Et disant ça, ça n'a rien à voir avec le père symbolique, évidemment. Absolument rien. C'est oublier qu'au fond, la parenté, la paternité, ou même la parentalité ou la maternité, appelons ça comme on voudra, est toujours une question d'adoption. Et on le voit bien quand on constate que ce n'est pas le cas. Par exemple, je pense à un sujet psychotique féminin qui me raconte à quel point ça lui paraissait étrange de voir ce petit être-là à l'accouchement. Qu'est-ce que c'était, quelque chose de complètement étranger. Elle ressentait un vide interne pour n'avoir plus cette grossesse puisqu'elle avait accouché, mais à part ça, voilà. Et donc là, on voit bien que lorsque, au fond, l'adoption, le choix n'a pas lieu. Et au fond, tous les pères névrosés adoptent peu ou prou leur enfant. Il n'y a absolument rien d'un engendrement naturel là. Donc la parenté, c'est quelque chose de culturel. Alors, ce Jean-Pierre Winter continue et dit « L'homoparentalité est un constructivisme qui nous ramène à l'état animal. Pourquoi ? Pourquoi ça nous ramène à l'état animal ? Parce que l'homoparentalité évite la castration symbolique. Bon, qu'est-ce qu'il entend par là ? Parce qu'il se fait une définition tout à fait restrictive de la castration symbolique. Pour lui, la castration symbolique, c'est se conformer pour un homme à une femme, qui symbolise son manque, ce qui le castre donc, et pour une femme à un homme qui ne peut que la décevoir, puisque au lieu du phallus symbolique, elle ne va rencontrer que le pénis réel. Donc il associe, il accroche de façon, il rive l'un à l'autre la castration symbolique au rapport entre les deux sexes. Il faut que ça se passe entre un homme et une femme. Ça, c'est la castration symbolique. Si on n'a pas ça, eh bien, c'est qu'on renacle devant la castration symbolique. Donc, on est dans l'animalité. Et il poursuit en disant que ce qu'il appelle l'idéologie parentaliste, là, j'ai trouvé ça vraiment fort pour quelqu'un qui se revendique de Lacan, est une forme de guerre contre l'hétérogène, contre l'autre sexe, et un renforcement de la ségrégation. Autrement dit, deux sujets de même sexe qui se lieraient dans le cadre d'un rapport, c'est une guerre contre l'autre sexe. Autrement dit, il faut que ça se passe entre un homme et une femme. Or, Lacan, qu'est-ce qu'il dit au fond ? Je ne sais pas s'il le dit exactement, mais on peut le déduire de son enseignement, à savoir que le rapport à l'autre, quelle que soit la sexuation de cet autre, est toujours un rapport à l'autre sexe. Que ce soit un homme pour une femme pour un homme pour un homme, une femme pour une femme, on est toujours concerné par un rapport à l'autre sexe. Ça, c'est avec Lacan. Au fond, dans cette position adoptée par Jean-Pierre Wintek, un monsieur assez connu, hein, il a une bibliographie et vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez aller lire sur Internet des tas de trucs qu'il a écrits sur les pères, les parents, les enfants, etc. Au fond, il voudrait nous refiler une fois de plus le mythe platonicien de cet être qui mythiquement était homme et femme et qui était séparé un beau jour. Et donc, on ne peut que s'inscrire en faux contre ce genre de discours lorsqu'on lit Lacan. Voilà. Je m'en resterai.
Bien, merci beaucoup. On va passer directement à ton exposé puisqu'on prendra les questions en fin de séance. Alors, Bogdan Kuznirek est clinicien et reçoit à Courcelles en région de Charleroi et il est également intervenant au Courtil. Je lui donne la parole, il nous parle des trois temps de l'Oedipe.
Voilà, on m'entend, oui, on m'entend. Alors il y a des choses sans doute qui vont être dites, mais c'est très bien, hein, parce que c'est assez complexe, surtout quand on commence à comprendre. Alors, mais je vais quand même commencer par une remarque fondamentale de Lacan. Alors oui, je vais suivre le texte pas à pas, hein, et surtout mot à mot presque. Je ne vais pas vous embêter avec tout le texte, mais enfin, presque mot à mot, parce que j'aime faire ça avec le séminaire de Lacan. Ça travaille de l'étude, je trouve. Donc, une remarque fondamentale de Lacan à la page 197, au sens, me semble-t-il, où c'est, bon, on peut prendre par différents biais, mais c'est le fondement de sa théorie, en tout cas de ce moment-là, de Lacan. Il dit, ce dont il s'agit, je vous le signale à tout instant, je vous le souligne à tout instant, c'est d'une structure constituée ailleurs, que dans l'aventure du sujet et dans laquelle il a à s'introduire. Donc, une structure constituée ailleurs que dans l'aventure du sujet. L'aventure du sujet, c'est ce qu'on pourrait considérer comme son développement cognitif par étapes. Enfin, il y a des théoriciens qui ont proposé ce genre de point de vue-là. Lacan dit c'est ailleurs que ça se passe. Et dans cet ailleurs, il a à s'introduire. Bon, c'est, c'est un peu vite résumé ce que Jean-François vient de dire. Donc c'est cette structure du grand autre. Alors il me semble que c'est... Donc pour noter que c'est de l'introduction du sujet dans la structure du signifiant qu'il s'agit, non pas de son développement psychologique comme je le disais, au sens de développement. Que l'enjeu du complexe d'Œdipe, dont la métaphore paternelle est le ressort, donc l'enjeu de la métaphore paternelle, du complexe d'Œdipe, c'est l'entrée du sujet comme effet de signifiant. Il y a toujours déjà les signifiants, et d'y entrer, il devient sujet, c'est-à-dire effet de signifiant. Alors, donc ce qui constitue le sujet, ce n'est pas pour Lacan un développement cognitif, mais sa position dans une dialectique, son rapport au grand autre, comme disait Jean-François. Grand autre, c'est-à-dire cette tierce entité qu'est le trésor des signifiants et leur système. Leur système, c'est la chaîne signifiante. C'est l'introduction de l'individu dans cette chaîne signifiante qui le fait sujet. Voilà, ça c'est une première remarque. Alors, important, je pense, pour entendre la suite, qui est quand même très, très explicative. Lacan ne fait pas toujours ça. Alors, donc, il y a trois temps à cette métaphore. Je commence par le premier, donc, si vous êtes d'accord. Nous avons un enfant et une mère. Oui, parce qu'on pourrait commencer par d'autres. Nous avons un enfant et une mère. Le père, concrètement, n'est pas encore sollicité. Cet enfant a affaire à une mère qui parfois est là et parfois n'est pas là. C'est tout le séminaire précédent, le livre 4. Ce va-et-vient de la mère, son absence, présence, va être subjectivé par l'enfant comme une première symbolisation primordiale, dit Lacan. Quand elle n'est pas là, il l'appelle. Et quand elle est là, il la repousse, bien entendu. Puis, cet enfant se demandera, bon, j'imaginarise un peu parfois, cette mère, mais quand elle n'est pas là, ma mère, qu'est-ce qu'elle désire, si ce n'est pas moi? Cet enfant, ce sujet-là, à venir, son désir ne sera plus simplement fait de, comme dit Lacan, l'appétition des soins, du contact, voire de la présence de la mère, mais de la pétition de son désir à elle. Tu as dit ça, Jean-François, mais je reprends. Donc ce désir de la mère, qui est donc ailleurs, va l'intéresser. C'est pourquoi Lacan nous dit, dans ce premier temps, que le désir du sujet est un désir de désir. Celui de la mère. Alors l'enfant commence de s'interroger sur le désir de sa mère. Il va se mettre à désirer ce qu'elle désire, l'objet de son désir. Or, ce qu'il a fait désirer ailleurs, ce que la mère désire, comme tout sujet pris d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, dans la dialectique du signifiant, pris dans un ordre symbolique dont il dépend, donc ce qu'il a fait désirer ailleurs, c'est le phallus. Cet objet imaginaire, métonymique, qui circule comme le furet partout dans le signifié, dit Lacan. Oui, alors le phallus, c'est le signifiant du manque, et quand ça manque, ça désire, évidemment. Donc il ne s'agit donc pas, dans ce premier temps, de la relation de l'enfant à la mère, il faut bien entendre ça, mais de la relation de l'enfant au désir de la mère. À ce qui fait son manque. Il s'agit d'un désir de désir. Alors tout de suite, Lacan met les points sur les i. Il ne s'agit donc pas d'une relation intersubjective, interhumaine, entre l'enfant et la mère, mais entre l'enfant et donc un autre sujet, au sens de Lacan, c'est-à-dire un sujet qui a déjà lui-même affaire à une structure qui le surplombe, le système signifiant, le grand autre. Et c'est parce qu'il y a ce grand autre qu'il y a pour le sujet toujours un désir d'autre chose. Donc la mère, comme tout sujet, est manquante et du coup désire ailleurs. C'est bien ici ce qu'on s'aperçoit C'est bien ici qu'on aperçoit donc de l'effet de ce tiers qu'est l'autre. On n'a pas à faire une relation fondée sur la dualité, mais sur un rapport à trois. La mère, l'enfant, et donc cet autre-là. Donc le désir de la mère comporte donc un au-delà. Et l'enfant a affaire à ça. Il le remarque assez tôt. Lacan dit qu'à ce moment-là, le sujet est un assujet. Assujet. Un sujet en tant qu'il est assujetti aux caprices de ce dont il dépend, de la mère, assujetti à la loi de la mère, dit Lacan. Alors, il faut entendre ici la loi de la mère, comme je le disais plus haut, en tant qu'elle est elle-même un sujet, un être parlant, qui voit son désir soumis à la loi du désir de l'autre. Cette loi de la mère tient simplement, pour le sujet, pour l'enfant, dans le fait que son désir à lui est complètement dépendant de quelque chose d'autre. Vers quoi se dirige le désir de la mère? Le phallus, ça vous nous dit. Son désir à lui, à satisfaire, dépend donc de ce phallus. Du coup, pour l'enfant, l'enjeu est de se rapprocher, de s'identifier à l'objet du désir de la mère, c'est-à-dire de s'identifier au phallus. C'est de satisfaire à ce désir de la mère, c'est-à-dire pour lui d'être ou de ne pas être ce phallus. Donc la question pour le petit bout, comme dit Lacan, c'est to be or not to be le phallus. Oui, ça a un écho à cette question. Donc il s'identifie en miroir à ce qui est l'objet du désir de la mère, c'est l'étape phallique primitive, dit Lacan. Mais oui, pour plaire à la mère, il lui suffit d'être au plus près ce qu'il a distingué, ce qu'il a lui-même distingué comme étant l'objet de son désir à elle. Et c'est à cette étape que beaucoup de choses peuvent s'arrêter et se fixer, dans un certain sens, imaginaire bien sûr. Ce sont les fixations perverses. Donc c'est l'étape où la métaphore paternelle agit en soi, c'est-à-dire, enfin tu l'as expliqué, en tant que fonction symbolique. C'est-à-dire que la primauté du phallus est toujours déjà instaurée dans le monde par l'existence du signifiant et de la loi. Et c'est ça qui joue ici. Ce qui veut dire que le père, dans un premier temps, ici donc, n'intervient que comme voilé, dans sa fonction symbolique, en tant qu'il représente la loi du signifiant, en tant que tierce, en tant que tiers élément, qui a pour effet d'instaurer cet au-delà du désir de la mère. Donc il n'intervient pas encore concrètement dans les actes. Ça, c'est le premier temps. Alors, deuxième temps. Au deuxième temps, le père intervient concrètement, sur le plan imaginaire. Donc il intervient bel et bien comme privateur. Il intervient pour séparer l'enfant et la mère. Il débusque l'enfant de cette place d'assujet où il est, de cette idylle qu'il vit avec sa mère, idylle dans laquelle il est donc identifié à ce qu'il a saisi de ce phallus pour plaire à sa mère. Lacan dira que ce moment est un moment, enfin le premier moment donc, est un moment constructif, fécond. Mais on reviendra dessus tout à l'heure. On est dans le deuxième ici. Lacan nous fait bien saisir dans ce séminaire que ce que prive le père, ce n'est pas l'enfant, mais c'est la mère. Il la prive du phallus qu'elle désire avoir et à quoi l'enfant s'est identifié. Et l'on voit que c'est sur ce plan de la privation de la mère qu'à un moment donné de l'évolution de l'Oedipe, la question se pose pour le sujet, l'enfant, d'accepter, d'enregistrer, de symboliser lui-même, de rendre signifiante cette privation dont la mère s'avère être l'objet. Bon, cette privation, le sujet enfantin l'assume ou l'assume pas. Il l'accepte ou il la refuse, dit Lacan. C'est le point essentiel. Alors, le père intervient imaginairement pour l'enfant. Oui, c'est important, c'est pour l'enfant. Le père intervient imaginairement pour l'enfant comme ce qui châtre la mère. Alors, il l'accepte ou il le refuse. Et c'est cette acceptation ou ce refus qui donne les fixations perverses, fétichisme, transvestisme. Ce moment est crucial parce que l'évolution de l'Œdipe dépend vraiment de la façon dont le sujet a pris position à un moment donné de son enfance sur ce rôle que le père joue dans le fait que la mère n'a pas le phallus. Et si l'enfant n'accepte pas cette privation de la mère par le père, alors il maintiendra dans la règle l'enfant maintiendra dans la règle une certaine forme d'identification à l'objet de la mère. Alors je trouve déjà intéressant à ce stade de pointer le nom qu'on donne au résultat du complexe d'Œdipe, le nom de déclin ou de chute. Oui, c'est pas anodin, enfin, déclin, chute. Donc le sujet qui sort du complexe d'Œdipe est un sujet qui sort par le déclin d'un processus. Et bien en effet, à cette étape-ci, il me semble, on entend déjà qu'il s'agit pour le sujet de s'extraire d'une identification imaginaire, de s'en laisser choir. C'est le déclin, c'est la chute de cette image d'être à la hauteur pour la mère, de cet assujettissement à être l'objet de son désir dont on parlait tout à l'heure. Alors, le père fait passer donc auprès de la mère l'idée que le phallus est l'objet imaginaire du désir. Elle ne l'a pas en lieu et place de son enfant, mais par contre que c'est lui qui l'a. Que l'objet de son désir, elle va le trouver chez lui, qu'il en est le souverain. Bon, alors, c'est pas aussi simple, bien sûr. Il ne suffit pas qu'il le dise haut et fort. C'est moi qui ai le phallus. Entends. Non, le père a beau faire des pieds et des mains avec son phallus. Donc, pour que cette privation, c'est quand même. Pour que cette privation qui opère sur la mère fasse fonction, c'est ça qui est important, fonction, il faut que cette parole privative et possessive du père soit relayée par la mère. C'est là qu'il n'est pas tout à fait macho. Bon, donc je vais tenter d'expliquer ça, mais d'abord je voudrais faire un rappel. Je pense que Jean-François a beaucoup insisté sur ça. Je le répète ici parce que, comme je disais tout à l'heure au début, on a vite fait de comprendre. Donc, pour ne pas se perdre dans une compréhension trop imaginaire du truc, qui viendrait comme une recette. Pour que ça marche, papa, de son côté, doit faire ça, maman doit acquiescer, bon. Il s'agit vraiment de considérer tout cela dans l'ordre du symbolique. Comme je disais, ce sont des fonctions. Lacan n'arrête pas, dans ce séminaire, de le faire consister. Le père est un opérateur d'abord symbolique, ensuite imaginaire, ici au deuxième temps. Il intervient en tant qu'il est le représentant de l'ordre symbolique, dans lequel on doit s'introduire pour être sujet. Il s'agit de l'instance paternelle, et pas du père, comme tu disais. Il s'agit toujours de remettre l'enfant, la mère et le père, dans leur rapport réciproque et intrinsèque à cet ordre, en tant qu'ils sont des sujets du signifiant, symbolique, des manques à être, dira Lacan. Des want to be en anglais, c'est vraiment ça, c'est vouloir être, ce ne sont pas des êtres. Et que des sujets sont toujours des effets de signifiants. Enfants, mère et père jouent leur partie à prendre leur place dans la structure signifiante, la chaîne signifiante. Donc c'est en cela que Lacan les sollicite, mère, père, comme ayant fonction auprès de l'enfant, pour que ce qui a été appelé l'Œdipe et son complexe opère sur l'enfant. Donc une fois les choses remises à leur place, là encore une fois, leur place signifiante et donc pas signifiée. Il faut reprendre deux choses. Donc, la mère renvoie à une loi qui n'est pas la sienne, mais celle de l'autre, grand A. Et l'objet de son désir, c'est cet autre qui le possède, cet autre à la loi duquel elle renvoie. Alors c'est la liaison de ces deux éléments qui donne la clé de la relation de l'Œdipe. Et cette relation de l'Œdipe, comme on l'a dit un peu plus haut, ce n'est donc pas une relation au Père en tant que telle, mais une relation à la parole du Père. Ça aussi c'est important. C'est ce qui fait quand même une différence fondamentale avec la psychose. C'est cette relation à la parole du Père qui est... Oui, parce que la métaphore paternelle, c'est pour la névrose. J'ai quand même... Oui. Le résultat de la métaphore paternelle est un résultat qui vise la névrose, enfin qui donne de la névrose. Et donc cette relation à la parole du Père, c'est cette relation à la parole du Père qui est décisive pour le sujet. Et cette parole, qui est donc privative et possessive, la mère ne l'a pas, c'est moi qui l'ai, doit être relayée par la mère. Autrement dit, sans le soutien de la mère, cette parole n'a pas fonction. Elle est inopérante. La parole du Père, pour autant qu'elle est soutenue, relayée, doit faire la loi à la mère. C'est ça la substitution. Il s'agit donc ici du Père, fondé dans sa parole par la mère, comme médiateur de ce qui est au-delà de sa loi à elle, de ce qui pourrait être son caprice envers l'enfant. Elle le fonde en tant que nom du Père, comme supporter, de, comme fauteur, dit Lacan, de l'énonciation de la loi. Alors on arrive au troisième temps. Premier temps, le Père est symbolique, voilé. Le deuxième temps, le Père est imaginaire. Enfin, son opération est imaginaire. Ici, le Père intervient dans le réel. C'est pas le réel du dernier Lacan. C'est donc pas symbolique ni imaginaire. Il intervient comme potent, en tant qu'il a le phallus. Alors, c'est quand même ici qu'intervient le fait de la puissance au sens génital du mot, dit Lacan. C'est pour ça que c'est réel, quand même. Donc, on avait déjà dit dans le temps 2 que le Père a le phallus. Et c'est en tant qu'il privait la mère de l'avoir. Ici, dans le temps 3, c'est en tant qu'il l'a, bien sûr, mais qu'il peut maintenant le donner à la mère. Il intervient en tant qu'il l'a, non pas en tant qu'il l'est. Il n'est plus seulement le privateur, il le donne à la mère. Il n'est plus symbolique ou imaginaire, mais effectif. Il s'agit ici d'un acte de don. Et c'est en tant que le père peut le donner à la mère que ce père donc, est intériorisé par l'enfant comme idéal du moi. Il y a identification au père en tant qu'il l'a et qu'il peut s'en servir. Dans le temps 2, le Père était interdictif et privateur. Dans le temps 3, il est permissif et donateur. Donc l'enfant n'est pas le phallus. On l'a vu. Il ne l'a pas non plus, en tant qu'il pourrait l'utiliser maintenant. Mais il a en poche tous les titres pour pouvoir s'en servir dans le futur, dit Lacan. L'enfant se voit octroyer tous les droits à être un homme, l'enfant... garçon. Mais pour plus tard, c'est en cela que ce troisième temps est appelé le déclin, la chute du complexe d'Œdipe. Car en effet, cela ne veut pas dire, dit Lacan, cela ne veut pas dire que l'enfant va entrer en possession de tous ses pouvoirs sexuels et les exercer. Bien au contraire, l'on peut dire qu'il est apparemment déchu de l'exercice de ses fonctions qui avaient commencé à s'éveiller. Mais il a en poche les titres à s'en servir pour le futur. Alors on voit là le rôle joué par la métaphore paternelle. Elle aboutit à quelque chose qui est de l'ordre du signifiant, qui est là en réserve et dont la signification se développera plus tard. C'est une phrase de Lacan, je reprends ici, et on entend qu'il s'agit bien de signifiants, que tout ça joue dans la cour des signifiants, que ça peut donner une signification, mais pour plus tard, à signifier. Si le deuxième temps est transitoire, il n'en est pas moins capital, car il est le cœur de ce qui pourrait être appelé le moment privatif du complexe d'Œdipe, dit Lacan. Il est capital, en effet, car c'est parce que l'enfant est débusqué de cette identification, de son identification au phallus, que peut s'établir cette troisième relation, qui est, elle, féconde également. Elle est féconde parce que l'enfant, le sujet, y devient autre chose. Quand l'enfant est une fille, alors Lacan passe très vite là-dessus, moi aussi. Quand l'enfant est une fille, cette troisième étape est plus simple. Donc, elle n'a pas à faire cette identification au père. Ni à garder ce titre à la virilité, surtout. Elle sait où il est, le phallus, et donc elle sait où elle doit aller le prendre. C'est du côté du père, et elle ira vers celui qui l'a. Voilà, ça c'est les trois temps. C'est plus court. Oui. En effet.
Merci beaucoup.
Il y a des graphes, mais je ne suis pas sûr que tout ça soit très... Enfin, on verra.
Et puis, il y a peut-être
soit plus clair dans les graphes.
Alors, mais voilà, je vous laisse un peu réfléchir à vos questions. Peut-être pour lancer la discussion. Deux choses me sont venues. Je n'ai pas la phrase précise en tête, mais je pense que c'est dans ce chapitre-là où Lacan évoque le fait que on voit bien que ce nom du père, comme décrit à cette époque-là, avec sa fonction, on va dire, normative, peut être aussi quelque chose qu'on retrouve dans le monde institutionnel. Je pense qu'il fait allusion à ça, me semble-t-il, dans ce chapitre. Enfin, j'ai le souvenir d'avoir lu rapidement. Et donc, on voit bien aussi que ce nom du père, du côté de l'Œdipe, peut amener à des pratiques en institution qui seraient aussi normatives, des institutions dites œdipianisées. Je pense que c'est important de le souligner. En tout cas, moi, la lecture de cette séance-là m'a vraiment mis en lien avec cette question et de dire qu'au fond, comme Alexandre Stevens le développait, la pratique plutôt en institution d'orientation lacanienne chez nous, c'est justement pas de ce côté-là qu'elle se situe. Voilà, ça c'était une première réflexion. Aussi, ce qui m'apparaît extrêmement important que tu as souligné en fin d'exposé, c'est au fond combien à partir d'une même référence théorique de signifiants qui ont tout ce qu'il faut pour être identiques, eh bien, on peut partir sur des discours tout à fait différents et des justifications de position, d'engagement dans la vie civile complètement différentes. Et ça me semble extrêmement riche, rien qu'à partir de cette séance-là, de pouvoir soulever des questions comme celle-là, avec lesquelles en France ils sont fortement aux prises. Et voilà, donc ça me semble vraiment important d'attirer l'attention sur le fait que sous les mêmes signifiants, on n'est jamais à l'abri de ce genre d'utilisation.
Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, comme tout le monde dans la presse, etc., et puis sur les listes qui nous concernent, moi j'ai vu passer une série de textes, et donc j'ai eu connaissance, comme ça, j'étais extrêmement surpris d'avoir connaissance de ce Jean-Pierre Winter, dont je me suis rendu compte qu'il avait toute une bibliographie, et comme je vous dis, qu'il écrit un peu des articles un peu partout, et qu'il tient un discours en disant « Je suis un ancien analysant de Lacan », et puis en particulier le texte dont j'ai dit quelques mots, effectivement, quand vous regardez ça, il cite Lacan. Ici, Lacan a dit que, page 34, ici, il a dit ça. Et puis, au final, ça nous fait un discours très surprenant pour nous, très fantaisiste, puisqu'il vient cimenter la fonction du père sur le père. Il veut absolument verrouiller ça. Et donc, il vient, au fond, il voudrait naturaliser, tout en disant, tout en évoquant tout ce qu'on voudra, bien sûr, mais il vient naturaliser la fonction du père. Alors que, bon, si Lacan démarre son enseignement en disant quelque chose, c'est bien ça. À quel point la famille est une institution culturelle, éminemment culturelle, à tel point que depuis que Freud a lancé ses découvertes, au fond, ça n'a fait que susciter des questions et des interrogations pour montrer justement à quel point on est dans le discours et qu'on n'est pas dans... On n'est pas du côté d'un engendrement et d'une paternité qui ne serait que le relais de rapports qui sont ceux de la nature. Alors, bon.
Alors, oui.
On peut dire que finalement, c'est une position. Enfin, j'ai lu un peu les textes, ce qu'ils discutaient un peu au Vatican, le pape, c'est une position assez proche de celle que tient le Vatican.
Mais d'ailleurs, c'est comme ça que Miller a introduit ce Jean-Pierre Winter en disant voilà celui dont s'autorise le grand rabbin de France, d'une part, et d'autre part, Benoît XVI.
Qui a démissionné.
Pardon ?
Qui a démissionné.
Oui, qui a entre-temps
en tant que père.
Abdiqué de ses fonctions. C'est pas à cause de Jean-Pierre
Winter. Alors, voilà, je voudrais aussi faire une transition vers l'exposé de Bogdan, au fond, de voir que voilà, ce nom du père, c'est une fonction. Ce n'est pas une incarnation en une personne. Bogdan l'a d'ailleurs bien articulé dans ces trois temps, en ne parlant pas trop des filles. Mais aussi de ce qui est invoqué, et c'est pour faire le lien avec cette question, le mot parentalité, de ce que Lacan évoque dans ses paragraphes de l'Œdipe inversé. On voit bien comment c'est quelque chose qui se joue à un moment au niveau de la structure, et pas comme quelque chose qui est normé, pas normé, voilà, et qui serait statifié dans l'incarnation que pourrait supporter une personne, un père, un homme. Non, pas du tout.
Oui, même chose, c'est pas naturalisé, c'est pas naturel. Oui. Mais on adopte son sexe aussi, je veux dire, de la même manière.
Et alors aussi, je me disais, au fond, comme tu l'as souligné, voilà, cette métaphore, elle fonctionne dans la névrose. En tout cas, elle a été conçue voilà, sur ce plan-là. Alors, je suppose, enfin, c'est pas je suppose, la clinique, dans des institutions comme Courtil ou d'autres, est émaillé au fond des défauts de fonction symbolique de ce nom du père qu'on rencontre au fond par exemple au Courtil avec des enfants. Et ce que je trouve intéressant dans ceci, c'est que ça ouvre à toutes ces questions des bricolages alors des oui. sujets, c'est-à-dire que quand cette métaphore paternelle n'est pas présente, quand elle n'a pas été opérante, alors là on ouvre dans une perspective qui est très large et qui revient aussi à la question du cas par cas, de chaque invention subjective. Voilà.
Absolument.
Alors peut-être une question qui me venait, c'était au fond, il y a quelque chose qui m'apparaît encore comme une, pas une ambivalence, mais un paradoxe, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui est au fond de dire, à la fois on dit que la fonction symbolique, dans le cas de la psychose par exemple, n'a pas opéré, mais en même temps l'enfant est quand même dans le langage. Alors comment ça se passe?
Mais c'est... Oui, enfin, je ne sais pas si ça va répondre clairement, mais c'est la métaphore paternelle qui n'a pas opéré. Oui. Est-ce que pour autant la fonction symbolique n'est pas présente? Bien sûr, on est, enfin, Lacan dit qu'on est tous des êtres de langue, enfin, parlant de langage. Enfin, l'autiste aussi, d'ailleurs. Pourtant, il ne parle pas. Enfin, bon, pour certains, il ne parle pas. C'est vraiment le côté substitution d'un discours à un autre. D'un discours par un autre qui est dans son opération. Qui n'a pas fait fonction dans la psychose. Mais il y a du symbolique.
Non, on voit ici ce commentaire d'aujourd'hui que ce qui différencie Freud de Lacan, hein, l'Œdipe, on voit d'ailleurs l'Église qui, d'une certaine façon, aujourd'hui, a adopté. La grande force de l'Église, c'est qu'elle fait comme les Japonais, elle adopte une série de choses qui se voient aujourd'hui. Pour l'instant, elle n'adopte pas l'homoparentalité, mais on pense une question de temps. Parce qu'aujourd'hui, elle a adopté Freud. Avant, elle l'avait rejeté. Elle l'a adopté plutôt qu'un enfant, un papa et une maman. Ce que Lacan apporte par rapport à ça, c'est quelque chose, c'est qu'il disjoint les géniteurs, hein, des signifiants. Il dit qu'il y a les personnes réelles qui sont animées dans tout ça, et puis il y a autre chose, il y a un ordre symbolique, c'est-à-dire le langage. Et il retrouve à ce niveau-là les fondamentaux de l'ethnologie, ou n'importe quel ethnologue, c'est ça.
Ou n'importe quel. Hein?
N'importe quel ethnologue, c'est ça. C'est que les populations les plus primitives savent que pour qu'il y ait un enfant, il faut qu'il y ait une copulation. Hmm? Aujourd'hui, la copulation se fait dans les laboratoires aussi. Et puis qu'après ça, l'ordre du père, c'est autre chose. Hein? Les tribus australiennes, on peut être... le géniteur, c'est X, mais le père, ça peut être le frère de la mère, ça peut être tel rocher... Et vous savez qu'on a une civilisation où certains ont dit que moi, mon père, c'est Dieu. C'est une folie, mais ça a marché. Bon. Certains croient encore qu'il y a un fils de Dieu. Bon. Autrement dit, on peut, comme vous avez fait remarquer, c'est que le père, c'est insignifiant, c'est pas le géniteur. C'est vraiment un autre ordre. Bon. Donc Lacan, en faisant ça, s'éloigne de Freud et en même temps le complexifie. Il apporte autre chose sur une espèce de vitalisme freudien, en apportant l'ordre du signifiant. Alors ici, tu montres bien par ce mathème A sur la jouissance. C'est qu'évidemment, il y a la jouissance, donc la jouissance du vivant, on ne peut pas en dire grand-chose. Et puis, le vivant, en tant qu'il est un être humain, eh bien, il s'inscrit, se structure, il se définit dans le langage. Et c'est ça qui change tout.
C'est là qu'on peut quand même se dire que, disons, ce que tu dis de l'Église, elle va quand même renacler devant la jouissance. Je ne vois pas très bien
mais
comment elle pourrait avoir
ça. Pas nécessairement, parce que malgré tout, l'Église est un substrat symbolique. Et donc forcément, qu'il y ait s'apercevoir que l'être humain se définit par le langage et pas par la nature... Chez Freud, c'est moins clair. La fonction signifiante chez Freud, on n'est pas isolé, on ne la saisit pas. Chez Lacan, on voit très bien que Le père, c'est pas le géniteur. Le père, dans une famille ordinaire, c'est le géniteur plus insignifiant, une casquette en plus. C'est insignifiant en plus qu'il porte sur lui ou qu'il ne porte pas.
C'est dire aussi qu'on est des êtres de, enfin des êtres.
Voilà, absolument.
De croyance.
Absolument. Alors, ce qu'on peut aussi souligner, c'est que, à partir de là, dès lors que il y a le vivant et il y a le signifiant, ça explique que toutes les formules de bricolage sont possibles. Le père n'est pas forcément un homme. Ça peut être une femme pour tout ça est possible dès lors que les fonctions sont remplies. Mmh. Un être vivant, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une fonction. Mmh. Et à partir de ce moment-là, papa-maman sont même des termes. Le projet de loi français avait voulu remplacer papa-maman par parent 1, parent 2. C'est bien dommage qu'ils ne l'ont pas fait.
Oui, c'est beaucoup moins gai à dire, quand même.
C'est beaucoup moins bien. Oui, mais enfin, au niveau juridique, ce terme de papa-maman vitalise un peu trop la chose et d'une certaine façon, ça obscurcit. Alors que dans les... On peut dire, à ce niveau-là, les populations dites ethnologiques ou primitives ont un temps d'avance. Papa-maman, ce n'est pas des termes qui ont vraiment cours comme ça. C'est beaucoup plus compliqué chez eux. Donc, c'est beaucoup plus... On voue beaucoup plus sur les ressources. Sur les ressources du symbolique. Et ce qui est important, bien sûr, en sujet psychotique, on dit que la fonction du père ne fonctionne pas, bien entendu. Ils sont néanmoins dans le langage. Et ce que Lacan montre, c'est que le père, c'est une puissance qui organise le langage. D'ailleurs, Lacan voulait en arriver à démontrer que finalement, papa-maman peut s'en passer. Et que ce qui... ce qui fonctionne, c'est le langage. C'est que le sujet se repère dans le langage. Tu as évoqué là ce texte, moi, je ne connais pas la névrose sans Oedipe.
Ah oui, bah
c'est une expérience commune, c'est que on peut n'avoir ni père ni mère, et néanmoins trouver justement, grâce au symbole, des substituts ailleurs. D'autres personnes peuvent remplir cette fonction. L'important, c'est que pour un sujet, quelqu'un ait rempli cette fonction.
Oui, ça doit être incarné quand même.
Voilà.
Mais pas au sens vitaliste. Mais ça doit être incarné.
Oui, comme on porte une casquette.
C'est ça, oui.
Effectivement, sauf qu'on la porte même en été, tout le temps.
C'est là qu'on voit, une différence par rapport à la question que posait Anne, là, par rapport au sujet psychotique. Le sujet psychotique, pour qu'il y ait quelque chose du côté du père qui opère, eh bien, il faut que le père soit là. Qu'il soit là en personne. S'il n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Ça me fait penser à ce que me racontait un jeune homme cet après-midi, jusqu'à ce qu'il ait toujours premier de classe à l'école primaire. Mais le papa était là à la maison et il lui serrait au dernier degré. Mais bon, premier classe. Le père s'en va et le type ne fout plus rien à l'école. Voilà, quelque chose qui n'a pas opéré. Il faut que. Donc c'est pas vraiment, c'est pas ça l'Oedipe, justement c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est que à partir du moment où on passe à l'échelle du signifiant, à partir du moment où on prend en considération ce signifiant qui dans l'autre est le nom du père, il n'y a plus besoin de ce que la présence effective du père soit là. En permanence, pour que quelque chose puisse s'articuler et fonctionner.
Oui, parce que justement, tu évoques la question, Anne évoquait la question des psychoses. Bon, il ne faut pas. En institution, on ne joue pas évidemment à renforcer un Oedipe qui n'a jamais existé. La question n'est pas là. La question est que. Oui, bon. Mais ce qu'on fait quand même en institution, c'est que l'institution pour le sujet. Est quand même une puissance, une force, un lieu, un abri qui stabilise, qui organise. qui rend vivable l'autre dans lequel il campe. C'est que justement, par cette démonstration là que fait Lacan, on conçoit bien que si on enlève ce qui organise le signifiant, ben ça va dans tous les sens. Et le sujet est absolument tiré à U et à Dia selon le désordre dans lequel se trouve le langage pour lui. Bon. Dès lors qu'on fait du père quelque chose qui organise le système symbolique, donc le langage. C'est ce qui explique que quand on parle, s'il y a une puissance paternelle qui est là, eh bien, quand on parle, eh bien, on n'est pas... Enfin, il y a quelque chose qui organise le langage qui fait qu'on n'est pas complètement envahi, en tout cas tout le temps. Et ce que fait une institution, c'est que c'est organisé, cette puissance-là. Alors, ce que je voulais seulement indiquer dans ce schéma qui me paraît important, c'est qu'on a insisté ici sur la castration, sur le fait qu'il y ait une jouissance, le langage arrive, et donc cette jouissance est organisée, il y en a un peu moins, et il y en a un peu moins, on appelle ça la castration. Bon. Alors, ça c'est le Lacan classique. Hein? Il y a une grande différence quand il dit Lacan classique par rapport à Freud, c'est que Freud, il y a un certain vitalisme dans Freud d'une certaine façon, c'est qu'il a appelé, enfin, Freud insiste plus sur la satisfaction, sur le plaisir, sur les jouissances que le Lacan classique. C'est seulement le dernier Lacan qui rejoint le premier Freud. On a beaucoup parlé du monde d'esprit au début de l'année, mais le Lacan ici ne parle très peu du plaisir du monde d'esprit. Il montre comment ça marche. Mais il ne rend pas compte de la satisfaction même du bon esprit. Et ça, c'est seulement le second Lacan, le dernier Lacan, qui, lui, va insister, va dire que le langage, ce n'est pas seulement un moyen de jouissance. Le langage apporte une autre jouissance. Se faire du langage, quelque chose qui justement empêche seulement de jouir, ça, c'est quelque chose qui... C'est comme ça que Lacan commence. Oui. Mais Lacan n'est pas resté là-dedans. C'est très important. C'est très important à souligner. Enfin bon, on va pas.
Oui, c'est le moment où Lacan va apporter des notions comme la langue, la parole, et, en un mot, qui indique bien à quel point la jouissance est sertie dans les mots, quoi.
Est-ce que vous pourriez revenir un instant sur le père qui dit non, puis le père qui dit oui, une fin d'analyse? Qu'est-ce qu'il y aurait à entendre dans une fin d'analyse autour du père qui dit oui, en ce qui concerne justement la fonction, dans l'articulation symbolique? Voilà, est-ce que vous pourriez donner une petite explication à ce sujet-là? Une fin d'analyse qui serait autre chose qu'un mot d'esprit, qu'un néologisme, qui doit s'entendre dans l'articulation symbolique.
Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que, donc, au fond, le mouvement d'une analyse consiste à défaire le sujet des signifiants qui l'encombrent. C'est ça le mouvement. Il y a un certain nombre de signifiants qui tombent jusqu'à constituer... quelque chose comme quelque chose qui se concrétise, qui se durcit au sens d'un symptôme, et c'est ce que Lacan appelle une jouissance enfin permise. Mais encore faut-il à ce moment-là trouver à composer avec de façon à la rendre vivable. Je ne sais pas si je réponds un peu à votre question.
Oui, et alors, ce père qui dit oui, il peut donc, cautionner donc quelque chose chez son enfant, mais il peut aussi, en fermant les yeux sur quelque chose, exercer la même fonction. Sur ce, fermer les yeux, pour quelque chose. Oui. Ce père qui ferme les yeux.
Oui, le père qui ferme les yeux, moi je rapporte ça... au temps du père interdicteur, mais qui n'est pas uniquement un interdicteur, il n'est pas tout interdiction. C'est le père qui sait ne pas savoir, ne pas tout savoir. Et encore une fois, on peut prendre à contrario des grandes figures connues de pères qui étaient dans le tout savoir, qui étaient des pères éducateurs psychotiques, dont le type, c'est quand même c'est quand même le père du président Schreiber, quoi, qui était le pédagogue absolu, qui avait doctriné que il vaut bien, même mieux ne pas donner un bonbon en récompense à l'enfant, parce que sinon il va courir après les bonbons. Et donc tout était légiféré comme ça, strictement, dans le sens d'une éducation absolument...
Donc il y aurait quelque chose du côté de la loi à ne pas prendre au pied de la lettre, quelque part. Il y a un certain...
Voilà. Ouais. Le père n'est pas la loi, il n'en est que l'écho, l'énonciateur, il n'en est pas l'origine.
On a évoqué là tantôt la démission du pape, et je trouvais que c'était une question qui avait été soulevée, je crois, dans des échanges sur Internet, que c'était quand même particulier, que c'était une fonction paternelle qui, à un certain moment, était abandonnée. Et donc, je me disais, mais au fond, est-ce que justement... quand on incarne une fonction paternelle, est-ce que c'est possible même de l'abandonner? Ou est-ce que finalement, c'est que cette fonction ne tenait pas très bien? Je trouve que c'est quelque chose qui...
Ça dépend. Donc vous parlez de la démission du pape, oui, c'est bien ça. Oui. Bon, moi, je suppose qu'un pape qui est théologiquement infaillible le reste... jusqu'à la fin de ses jours, même si entre-temps il a démissionné, qu'il s'est cantonné dans un monastère, il reste. Ça, c'est des questions de théologie. Mais donc, à côté de ça, si on parle d'une fonction paternelle, je pense que on n'imaginerait pas, donc hormis la question du Saint-Père, qu'un père soit dans une attitude où il démissionnerait de sa fonction, puisque c'est une fonction logique. Ça ne relève pas tellement, à ce niveau-là du moins, d'un choix.
Oui, c'est intéressant, parce que finalement, d'un côté, il y a un choix, on choisit d'avoir cette fonction-là. Et en même temps, on ne peut pas faire marche arrière.
Reste le cas de figure où le sujet dont enfant va aller chercher ses identifications idéales ici et là, oui. Ailleurs.
Oui, mais ça, c'est l'enfant qui choisit. Le père en lui-même, hein, est-ce qu'il peut renier ses enfants, par exemple? S'il dit, toi, tu n'es plus mon enfant, est-ce qu'effectivement... Est-ce que c'est quelque chose qui même peut être imaginé, je ne sais pas.
Absolument.
Un père qui peut démissionner. Un père peut très bien démissionner de sa fonction. C'est même le père démissionnaire, c'est même des choses. Et là, ça prend toutes les figures possibles de la clinique. Ça peut être. On peut avoir un père qui démissionne, en avoir quand même un. Hein, parce qu'après tout, oui. Il y a ce que quelqu'un fait de la fonction dans laquelle il est. Ça, c'est le pape qui démissionne. Bon, mais enfin, même un père qui n'est pas saint peut démissionner aussi. Il n'y a pas de raison que les pères soient emprisonnés dans la fonction logique, alors que le pape lui pourrait prendre sa retraite. Ce serait injuste. Pas du tout. Tout le monde peut faire ça, mais ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça que l'enfant, après tout, on ne peut jamais préjuger de ce qu'il adviendra à l'enfant d'un père qui démissionne.
Oui.
Ce sont des choses qui se voient assez souvent. Combien d'enfants n'ont pas de pères qui n'ont jamais vu, très peu vu, etc. Mais l'important, il y a deux choses à voir. C'est ce que fait le père de la fonction qu'il habite. Et ce que fait l'enfant qui est assujetti à cette fonction. C'est pas tout à fait la même chose.
Donc pour l'enfant,
Voilà. Ce qu'il y a comme jeu, c'est qu'effectivement, elle peut être remplie, le poste peut être occupé,
sans qu'il n'y ait personne à la voie.
Peut-être pas. Mais elle peut être occupée, le poste peut être occupé par plusieurs personnes successivement à la même vie.
Si la métaphore a opéré.
Voilà. Si la fonction existe, autrement. Si la fonction, on dit que la métaphore existe, c'est que la fonction opère.
Si la métaphore a opéré, la fonction paternelle, l'instance paternelle sera là. Que le père démissionne ou pas. Ensuite, il y a déception. Déception. Il peut avoir une joie terrible. Enfin, il me laisse tranquille. Tout ce que vous voulez, on peut imaginer. Mais la fonction paternelle reste opérante. Si elle a opéré,
reste opérante pour l'enfant.
Pour l'enfant, voilà. Absolument.
Quand on parle de psychose.
Mais vous parlez du papa, vous.
Oui, c'est ça.
Voilà. Expliquez un petit peu.
Mais justement, la question, c'est est-ce que pour le père, est-ce qu'au fond, même s'il démissionne, est-ce que finalement, il ne reste pas toujours, quand même, dans cette fonction ?
C'est peut-être là où il faut différencier. Dans ce que j'entends de ce que vous dites, j'ai l'impression que je démissionne, j'en ai marre, pas le bol, ça sert à rien, enfin, je m'entends, hein, là je situerais ça sur un point imaginaire. C'est pas parce qu'il le dit, qu'il le crie ou est fort, c'est symboliquement, il a forcément.
Pardon, voilà, moi j'entends plus ça sur un versant imaginaire du côté du père. Le père qui dit j'en ai marre, à quoi ça sert, tout ça, je me sacrifie, enfin bon, on entend plein de pères dire des choses comme ça. Mais ça, je situe plus ça, moi, sur le plan imaginaire. Est-ce que ça veut dire que pour autant, puisqu'on parlait de fonction, hein, Bogdan a encore réinsisté là-dessus, ainsi que Jean-François, est-ce que ça veut dire pour autant, parce que c'est dit sur le plan imaginaire, que symboliquement, il a réellement démissionné ? Enfin, je crois qu'il faut peut-être différencier. Enfin, voilà, je poursuis dans votre
questionnement. Mais un père démissionnaire est un père.
Voilà.
Comme il y a un grand père, il y a un père démissionnaire, si vous voulez. Enfin, il y a un père souriant, et puis il y a un père démissionnaire. Enfin, c'est un type de père. Pour l'enfant, il restera de toute façon son père. C'est bien ça que c'est signifiant. Sur les papiers à la commune, enfin, le papa, c'est monsieur. Après. On n'est pas dans la question de la fonction paternelle, là. De la métaphore paternelle. Vous voyez ? Enfin, elle sait jouer. La question sait jouer. Et une fois qu'elle sait jouer, les papas qui meurent, ça existe. Malheureusement. Bon, eh bien. La fonction est toujours là. Voilà. Absolument. C'est une fonction qui a fait du petit infant un sujet. Donc, c'est fait. Et d'ailleurs, enfin, après, c'est ce que tu disais, Lacan ensuite a surgi. Hein, donc, enfin, c'est la fonction paternelle, mais. Développer.
Psychanalyse opère, c'est-à-dire que ça réaménage le rapport du vivant avec les fonctions signifiantes qui l'entourent. Alors, il y a des sujets qui ont peut-être été trop serrés par le signifiant, trop serrés par l'autorité, trop serrés par la puissance du signifiant maître, etc. L'analyse le desserrera. Mm-hmm. Pour d'autres sujets, avec lesquels pour lesquels elle opérera plutôt une fonction de stabilisation, remettant un sujet dans un certain axe dont la vie l'a un peu déporté. Donc, il faut vraiment différencier deux choses, le vivant et le signifiant, et les fonctions. C'est vraiment très important.
Oui, c'est vraiment essentiel chez Lacan.
Et quand on parle de psychose, c'est une structure où le langage est là comme pour n'importe qui, mais dans laquelle il y a une fonction qui, dans le langage, n'opère pas. n'opère pas comme dans la névrose, qui a la fonction d'organisation du langage que serait le nom du père ou le signifiomètre. Finalement, Lacan aimera. Le législateur français n'a pas suivi Lacan. Lacan parlait de signifiomètre, tout de même. Moins de papa. Hein, ce n'est pas un thème qu'on voit dans la. Un papa, un maman, un enfant, Lacan, ce serait. On entend déjà les sarcasmes de Lacan d'ici. Hein, c'est vraiment une fonction. C'est vraiment une fonction et c'est ça qui permet finalement de rendre compte du réel de la clinique de façon beaucoup plus fidèle que Freud. Hein, parce que c'est un paradoxe, comment un sujet qui n'a jamais eu de père, jamais eu de mère, etc., pourtant n'est pas fou. Si on vitalise ça, c'est impensable. Hein, Alors, ça, c'est vraiment ce que vous avez expliqué aujourd'hui, vraiment le béaba du lacanisme. Et c'est vrai qu'on a vu se nommer Winter, auquel tu fais allusion, eh bien, très curieusement, il l'oublie. Il l'oublie, c'est qu'il considère que. Il ne voit pas la différence entre le vivant et la fonction.
C'est des questions comme ça qui permettent de marteler. Hein. Allez-y. C'est vrai, parce que c'est complexe en même temps.
Alors, sur le père qui dit oui, sur le père qui dit non, le troisième temps de l'Oedipe, c'est évidemment le père qui dit oui. Hmm. Mais dire oui,
ah oui.
Lacan a aussi une expression dans un autre texte classique des écrits, en disant, voilà, c'est le père, c'est celui qui dont la parole humanise le désir. Cette expression humaniser le désir, qui est une expression un peu, peut-être un peu empoulée ou un peu trop littéraire, humaniser le désir, ça veut dire simplement donner au désir une reconnaissance en signifiant, une place en signifiant. Donc connecter le désir de l'enfant avec un signifiant, c'est-à-dire autrement dit dire oui. Ça lui donner un statut, une validation.
Est-ce que, madame, dans votre question, est-ce que vous reportiez le père qui dit oui à la fin de l'analyse?
Oui. Qu'est-ce qu'il entend en termes de fonction, dans la fonction, justement symbolique?
Enfin, moi, je répondrais ça. C'est, donc, le père qui dit oui, en effet, c'est le troisième temps. C'est-à-dire, c'est là où, pour plus tard. Je dis oui, mais pour plus tard, ça donne un idéal du moi. Dans l'analyse, on arrive avec cet idéal du moi. Enfin, pas tout de suite, d'abord. Hein, avec des identifications, et puis tout petit à petit, ça prend forme, cet idéal. Quand même, on traverse. On traverse la question de l'idéal, et... une fois qu'on traverse ça, est-ce que le père, est-ce qu'on attend encore du père qu'il dise oui pour, enfin, pour arriver aux symptômes dont tu parlais? C'est formidable de se rendre compte, je pense, que ce moment de Lacan-là, c'est un Lacan structuraliste, articulatoire. Enfin, bon. Et qu'on s'y introduit pour être sujet. Mais Lacan dira par la suite, c'est une articulation, les quatre discours, etc., ça c'est les choses qui suivent après, c'est du semblant. Bon, c'est du semblant dont il faut se servir, absolument. Mais c'est du semblant, et donc dans l'analyse, ça attrape sa dimension de semblant, justement. Et puis ils viennent des choses plus qui tirent vers la jouissance et la réelle, enfin par la suite. Je ne dirais pas qu'à la fin de l'analyse, le père dit enfin oui. Enfin, disons que, puisque le père, on l'a bien saisi comme étant une dimension. Ben voilà, je dirais ça, mais je ne sais pas, parce que Philippe ou Jean-François ou Anne va la rajouter. Il y a une autorisation, une auto-autorisation. Elle ne vient plus du père. Enfin, on a géré ça.
On s'autorise à être soi-même analyste après quelques années ou après un long... On s'autorise de soi-même, de quelqu'un, de quelques autres, il y a quand même la fin. C'est plus l'assentiment.
Et puis, tout à fait. Puis, on peut bien se dire que ça, ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est... On pourrait dire que c'est le noyau symbolique, c'est de l'ordre qui est du nécessaire, mais du non suffisant. C'est que, en analyse, on ne vient pas jouer ça, comme vient de dire Bogdan, c'est déjà joué, ou pas. Mm-hmm. Et le père, le dip, tout ça, c'est épatant, c'est fondamental, mais ça ne suffit pour personne. Et donc, d'une certaine façon, l'analyse, c'est toujours à quelque chose qui se situe après le dip. Comment vivre avec le dip qu'on a eu ou pas, et bien comment se débrouiller aujourd'hui avec l'existence qu'on a. Et donc, d'une certaine façon, l'analyse, c'est toujours quelque chose qui intervient après le dip. Alors, bien sûr, il y a à s'informer dans une analyse de ce qu'a été l'Œdipe d'un sujet pour voir quels sont les instruments qui sont dans la boîte à outils, pour le dire comme ça. Hein? Et puis après ça, il s'agit d'organiser quelque chose de la vie qui va là au-delà. C'est que sans ça, après tout, une existence serait programmée, serait déjà jouée avant d'être vécue. Hein? Ce qui n'est pas le cas.
Oui. Oui, parce que donc ça donne un résultat. Tu parlais d'équations. Ben oui, absolument, c'est mathématique. Mais on apprend avec Lacan, et puis de toute façon dans sa propre analyse, que, mais déjà lui dit de toute façon, c'est qu'il y a du ratage. Ça, alors la fonction paternelle opère. On est un bon petit névrosé, mais ça rate. On n'a jamais ce qu'on veut, on ne parle jamais comme il faut, etc., etc., etc. Hein, c'est la réfraction du désir dont tu parlais tout à l'heure. Donc ça rate, et donc ça peut amener, si on s'en satisfait, très bien, mais ça peut amener en analyse. On dépasse cette articulation, on est fait en analyse.
Oui, en analyse, on peut aussi voir un peu quel est le type de père qui a été ou qui n'a pas été, qu'est-ce qu'il a donné, en quoi est-ce qu'il a orienté les choses ou pas orienté les choses, etc. Et donc prendre la mesure de ce qui était, du père tel qu'il a été. De ce qui n'a pas été, bien sûr.
Ah, c'est joyeux aussi, hein.
Tu reviendras. Tu reviendras.
Ah non, je dis c'est joyeux ici, tu as compris. Oui, c'est très joyeux. Oui, non, mais je dis c'est joyeux aussi.
Aussi.
Tu vois.
Et bien ici aussi. Voilà. Et donc, voilà, je vous propose de remercier Jean-François et Bogdan Chaloupin. Et on se retrouve dans un mois.